Chapitre 13. Il était 19h45 le soir du 18 mai 1961. La lumière d'un long crépuscule texan baignait mon jardin de derrière. La fenêtre était ouverte et les rideaux flottaient dans la brise légère. À la radio, Troy Schondell chantait « This Time ». J'étais assis dans la deuxième chambre de ma maisonnette que j'avais convertie en bureau. Ma table de travail était un pupitre de rebut rapporté du lycée. Il avait un pied trop court que j'avais calé. Ma machine à écrire était une Webster portative. Je m'employais à la révision des 150 premières pages de mon roman « La ville assassine », principalement parce que Mimi Corcoran ne cessait de me harceler pour le lire et que Mimi, avais-je découvert, était le genre de personne qu'on ne peut tenir longtemps à distance avec des excuses. Mon travail avançait vite et bien. Je n'avais eu aucun problème, dans mon premier jet, à remplacer Derry par la ville fictive de Dawson, et changer Dawson en Dallas s'était révélé encore plus facile. Si j'avais entrepris ces changements, c'était uniquement en vue du moment où je laisserais finalement Mimi lire mon manuscrit, afin de le mettre en conformité avec l'histoire que j'avais racontée pour me couvrir. Mais peu à peu, ce travail m'était apparu aussi essentiel qu'inévitable. Il semblait que mon livre avait voulu Dallas pour cadre depuis le début. Il y eut un coup de sonnette. Posant un presse-papier sur les pages du manuscrit pour éviter qu'elle s'envole, je suis allé voir qui était mon visiteur. Je me souviens de tout cela très clairement. Les rideaux qui dansaient dans la brise, le galet de rivière lisse qui me servait de presse-papier, la chanson « This Time » qui passait à la radio, la longue lumière du soir texan que j'avais appris à aimer. Et quoi d'étonnant à ce que je m'en souvienne? C'est là que j'ai cessé de vivre dans le passé pour commencer à vivre tout court. J'ai ouvert la porte et Michael Coslow était là, en larmes. « Je peux pas, Monsieur Humberson, » qu'il m'a dit. « Je peux pas, c'est tout. »« Entre, Mike, » je lui ai dit. « Nous allons en parler. » J'étais pas surpris de le voir. Avant de m'enfuir vers l'ère du tabagisme universel, je m'étais occupé pendant 5 ans du petit club théâtre du lycée de Lisbonne et j'avais été témoin de nombreux accès de trac durant ces années. Diriger des acteurs adolescents, c'est un peu comme jongler avec des pots de nitroglycérine. C'est dangereux et exaltant. J'ai vu des jeunes filles qui apprenaient vite et étaient d'un naturel confondant en répétition se pétrifier littéralement sur scène. J'ai vu des petits gars complexés sembler grandir de 30 cm la première fois qu'une de leurs tirades récoltait un éclat de rire du public. J'ai dirigé des bûcheurs de textes par vocation et quelques perles rares douées de l'étincelle du talent. Mais jamais je n'en avais eu un de la trempe de Mike Coslow. Je pense à tous les profs de lycée et de fac qui ont œuvré toute leur vie pour l'art dramatique sans jamais rencontrer quelqu'un comme lui, et je les plains. C'était effectivement Mimi Corcoran qui dirigeait le lycée de Denholm. Et c'était elle qui m'avait persuadé d'assurer la mise en scène de la pièce des premières et terminales lorsque Alfie Norton, le prof de maths qui s'en chargeait depuis des années, avait appris qu'il souffrait d'une leucémie myéloïde aiguë et déménageait à Houston pour y être soigné. J'avais bien essayé de refuser, au motif que j'étais encore occupé par mes recherches à Dallas, sauf que je m'y étais fort peu rendu pendant l'été 1960 et le début du printemps 1961, et Mimi le savait. Car chaque fois que Deke avait eu besoin d'un remplaçant d'anglais au cours du premier trimestre de l'année scolaire, j'avais été disponible la plupart du temps. Concernant Dallas, à vrai dire, je marquais le pas. Lee était encore à Minsk pour un moment. Il n'allait pas tarder à épouser Marina Prusakova, la fille à la robe rouge et aux ballerines blanches. « Bah, vous avez du temps à revendre !» m'avait rétorqué Mimi. Les points sur ses hanches inexistantes, elle était en mode pas de quartier ce jour-là. « Et vous serez payé pour ça. »« Ah ouais ?» avais-je répliqué. « $50.
J'ai vérifié auprès de Deke. Je vais pouvoir vivre comme un nabab.
Quoi ? Laissez tomber, Mimi. Pour le moment, je n'ai pas besoin d'argent.
Ne pouvons-nous en rester là ?
Non, nous ne le pouvions pas. Miss Mimi était un bulldozer. Et quand elle rencontrait un obstacle en apparence inamovible, elle réglait sa lame plus bas et poussait le moteur à la vitesse supérieure. « Sans moi, me dit-elle, il n'y aurait pas de pièces des premières et terminales pour la première fois dans l'histoire du lycée. Les parents seraient déçus. Le conseil d'administration serait déçu. Et, avait-elle ajouté en rapprochant ses sourcils l'un de l'autre, je serais très malheureuse. Il me manquerait quelque chose.
À Dieu ne plaise que vous soyez malheureuse, Miss Mimi, avais-je répondu.
Écoutez, si vous me laissez le choix de la pièce, quelque chose qui ne soulève pas trop de controverses, je vous le promets, je vais le faire.
Son froncement de sourcils avait disparu, remplacé par le sourire éclatant breveté Mimi Corcoran, qui avait le don de changer Deke Simmons en un bol de flocons d'avoine frémissant. Ce qui, sur le plan du caractère, n'était pas une énorme transformation.
Excellent ! Et qui sait, vous pourriez dénicher un brillant comédien longeant nos sombres couloirs.
Oui, autant trouver un cochon qui sait siffler.
Mais, quelle blague que la vie ! Je l'avais effectivement trouvé, ce brillant comédien. Un acteur né. Et voici que la veille de la première, nous devions donner notre spectacle pour une série de 4 représentations, il était là, assis dans mon salon, occupant presque tout le canapé qui ployait humblement sous ses 135 kilos et pleurant toutes les larmes de son grand corps. Mike Coslow, alias Lenny Small dans l'adaptation du roman de John Steinbeck, Des souris et des hommes, que George Amberson avait écrite pour le lycée. Si je parvenais à le convaincre de monter sur scène le lendemain.